Sí. Une pluie de questions. Avant de commencer à répondre à des questions, je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez dû noter déjà plusieurs fois que ma façon de vous parler n'est pas toujours la même. Je ne sais pas si vous êtes très sensible à la différence, mais pour moi, elle est assez considérable. Parfois, à cause de ce que j'ai lu, ou pour toute autre raison, à la suite d'une question quelquefois, mais assez rarement, il m'arrive d'avoir ce que l'on appelle généralement une expérience, mais qui en fait est simplement d'entrer dans un certain état de conscience et une fois qu'on est dans cet état de conscience, de le décrire. Dans ce cas-là, ce qui est dit passe à travers le mental, ne se servant de lui que de ce que nous pourrions appeler un magasin de mots. La force, la conscience qui s'exprime, passe à travers le mental individuel et attire par une sorte d'affinité les mots nécessaires à son expression. Ceci, c'est le vrai enseignement. Celui que l'on trouve difficilement dans les livres, il peut y être dans les livres, mais Il faut être soi-même dans cet état de conscience pour pouvoir l'y découvrir. Tandis que, avec la parole, la vibration du son transmet quelque chose au moins de l'expérience qui, pour tous ceux qui sont sensibles, peut devenir contagieuse. Dans l'autre cas, la question posée ou le sujet choisi est transmis par le mental à la conscience supérieure. Le mental reçoit une réponse et la transmet de nouveau à travers la parole. Ça, c'est ce qui se passe le plus généralement, en admettant même que celui qui enseigne ait la capacité de faire passer la question vers la conscience supérieure, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais enfin, c'est généralement le cas des enseignements. Je dois vous dire que la seconde méthode ne m'intéresse pas beaucoup. Et que bien souvent, quand la question posée ou le sujet traité ne me donne pas la possibilité d'entrer dans un état de conscience qui m'intéresse, j'aimerais infiniment mieux me taire que de vous parler. C'est une espèce de devoir à remplir qui me fait vous parler. Je vous préviens de ça simplement parce que il m'est arrivé de couper court à la conversation, si on peut appeler ça une conversation, et à passer abruptement à la méditation. C'est dans ces cas-là. Mais enfin, il se trouve que quelqu'un m'a demandé d'expliquer cette différence, et c'est pour ça que je vous l'explique ce soir. À part ça, j'ai encore reçu d'autres questions. D'ordre pratique. Et à propos de ces questions, à propos des questions, j'ai vu quelque chose dont je vais vous parler. Oh, c'est pas une vision avec des images, ne vous attendez pas à voir quelque chose de très amusant. Non, c'est pas ça. Non, on m'a demandé. Comme ça, je traduis. ce n'est pas textuellement la question. On m'a demandé, à vrai dire, quelle différence ça faisait vraiment la présence du supramental. De quelle manière est-ce que ça changeait la teneur des problèmes et comment il fallait reconsidérer la vie depuis cette manifestation. On m'a demandé des exemples pratiques, je ne sais pas très bien ce que ça peut vouloir dire. Mais, en tout cas, voilà ce que j'ai vu. Dans une humeur un peu mathématique, quoique le langage mathématique me soit assez étranger. Mais je peux appeler ça une humeur mathématique, c'est-à-dire une façon mathématique de regarder le problème. Je pense que tous vous avez fait assez de mathématiques pour connaître cette chose de la complexité des combinaisons qui peuvent se produire en prenant pour base certains éléments que l'on choisit dans un ensemble. Je vous donnerai, pour être plus clair, parce que je ne peux pas employer les termes dont on s'est servi pour vous enseigner, je vous donnerai un exemple. Par exemple, les lettres de l'alphabet. Il y a un certain nombre de lettres. Eh bien, avec ces lettres, si on veut calculer ou savoir le nombre des combinaisons possibles en prenant toutes ces lettres ensemble, comment vous pouvez les organiser? De combien de manières elles peuvent être organisées? On vous a appris à quel point le chiffre devient fantastique. Bien. Mais si vous prenez le monde matériel et que vous descendiez à l'élément le plus minuscule, vous savez qu'on en est arrivé à des choses absolument invisibles, n'est-ce pas, et innombrables. Si vous prenez cet élément comme base et le monde matériel comme le tout, et que vous vous imaginiez une conscience ou une volonté qui s'amuserait avec tous ces éléments à faire toutes les combinaisons possibles et jamais répéter la même combinaison. De toute évidence, n'est-ce pas, en mathématiques, on vous dit que le nombre des éléments est fini et que par conséquent le nombre des combinaisons est fini, mais ça c'est purement théorique. Parce que si vous en venez à la pratique et qu'il faudrait que toutes ces combinaisons, même si elles se suivent à l'allure d'une rapidité presque pas perceptible dans son changement, il est de toute évidence que le temps qu'il faudrait pour faire toutes ces combinaisons serait au moins apparemment infini. C'est-à-dire que le nombre des combinaisons serait tellement immense que on ne pourrait pas lui assigner de fin pratique, tout au moins si la théorie n'est pas intéressante pour nous. Mais pratiquement, ce serait comme ça. Alors, imaginez que ce que je vous dis soit vrai, dans le sens qu'il y a vraiment une conscience et une volonté qui manifeste ces combinaisons successivement indéfiniment sans jamais en répéter une deux fois. Nous arrivons à cette conclusion que l'univers est nouveau à chaque instant de l'éternité. Et si l'univers est nouveau à chaque instant de l'éternité, cela nous oblige à constater qu'il n'y a absolument rien qui soit impossible. Non seulement ça, mais que ce que nous appelons logique n'est pas nécessairement vrai. Et que la logique, ou on pourrait presque dire la fantaisie du Créateur, n'a pas de limite. Par conséquent, si, pour une raison quelconque, qu'il serait peut-être difficile d'exprimer, mais pour une raison quelconque, une combinaison ne serait pas suivie par celle qui lui est la plus proche, mais par une autre choisie librement, par la liberté suprême, alors toutes nos certitudes extérieures et toute notre logique extérieure tomberaient instantanément. Parce que le problème est encore beaucoup plus compliqué que vous ne pensez. Ce n'est pas seulement sur un plan, dans un domaine, c'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler une surface des choses, qu'il y a cette quantité pratiquement infinie d'éléments permettant des combinaisons éternellement nouvelles. Il y a en plus de ça ce qu'on pourrait appeler une profondeur, c'est-à-dire les autres dimensions. Et la création est le résultat non seulement des combinaisons de surface, mais des combinaisons de profondeur dans cette surface. ce que, en d'autres termes, on appelle les facteurs psychologiques. Mais je me place maintenant un point de vue purement mathématique, quoique je ne parle pas mathématique, mais en fait, c'est une conception mathématique. Et alors, nous y voici au problème. Chaque fois qu'un élément nouveau est introduit dans l'ensemble des combinaisons possibles, cela fait comme que l'on pourrait appeler le déchirement de ses limites. L'introduction de quelque chose qui fait que toutes les limites passées disparaissent et que des possibilités nouvelles interviennent et multiplient indéfiniment les anciennes possibilités. Alors, vous aviez un monde qui, selon la connaissance antique, ancienne, avait 12 profondeurs ou 12 dimensions successives, et dans ce monde de 12 dimensions, tout d'un coup se précipitent des dimensions nouvelles. Alors, toutes les formules anciennes sont instantanément transformées. Et toute la possibilité du déroulement ancien se trouve, comment dire, on ne peut pas dire aggravée, mais supplémentée d'un nombre presque infini de possibilités nouvelles. Et ceci de telle manière que toute la logique antérieure devient illogique en présence de la logique nouvelle. Je ne parle pas du tout de ce que le mental humain a construit avec l'univers, parce que ça, c'est une réduction à sa dimension. Je parle du fait tel qu'il est, d'un ensemble de combinaisons qui se réalisent successivement selon un ordre et un choix qui évidemment échappent complètement à la conscience humaine, mais auquel il s'est quelque peu adapté et qu'avec un grand effort d'étude, comme celui qui s'est poursuivi depuis des siècles dans l'humanité, on est arrivé à lui donner une expression qui permet de s'accrocher à quelque chose de tangible. Il est évident que la perception scientifique moderne est beaucoup plus proche de quelque chose qui corresponde à la réalité universelle que les perceptions de l'âge de pierre, par exemple. Ce n'est pas l'ombre d'un doute. Mais cela même soit se trouver tout d'un coup complètement dépassé, surpassé et probablement bouleversé par l'intrusion de quelque chose qui n'était pas dans l'univers que l'on a étudié. Eh bien, c'est ce changement, cette transformation brusque de l'élément universel qui va amener très certainement une sorte de chaos dans les perceptions, d'où surgira une connaissance nouvelle. Ça, de la façon la plus générale, c'est le résultat de la manifestation nouvelle. Au point de vue tout à fait réduit, extérieur et limité, eh bien, je vous parlerai maintenant de choses qui ne sont pas de mon expérience, mais enfin que j'ai entendu dire que, par exemple, on compte un plus grand nombre de ce que l'on appelle des enfants prodiges. Moi, je n'en ai pas rencontré, alors je ne peux pas vous dire quel est vraiment le prodige de ces enfants. Mais enfin, d'après les histoires qu'on raconte, il y a évidemment des sortes de types nouveaux qui paraissent étonnants à la conscience humaine ordinaire. Ça, ce sont des exemples de ce genre-là, je crois, que l'on voudrait connaître pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est possible, en effet, qu'il va se passer des choses auxquelles on n'est pas l'habitude d'assister. Mais c'est une question d'interprétation. Le seul fait dont je suis sûr, c'est ce que je viens de vous dire, que la qualité, la quantité et la nature des combinaisons universelles possibles va tout d'un coup changer d'une façon si considérable qu'elle sera probablement ahurissante pour tous ceux qui font des recherches dans la vie. Maintenant, nous allons voir. Je pourrais peut-être ajouter un petit mot pratique à ce que je viens de vous dire. Ce n'est qu'une illustration de détail, mais qui sera une réponse indirecte à d'autres questions qu'on m'a posées il y a quelque temps. Au point de vue des soi-disant lois de la nature, cause et effet, conséquences inévitables dans le domaine matériel et plus particulièrement au point de vue de la santé que si on ne prend pas certaines précautions, si on ne mange pas comme il faut, si on ne suit pas certaines règles, il y a nécessairement des conséquences. Ça, c'est vrai. Mais si l'on voit ça à la lumière de ce que je viens de vous dire, qu'il n'y a pas deux combinaisons universelles qui soient semblables, comment est-ce qu'on peut établir des lois? Et quelle est la vérité absolue de ces lois? Elles n'existent pas. Parce que si vous êtes logique, enfin d'une logique un peu supérieure, puisque deux choses, deux combinaisons, deux manifestations universelles ne sont pas les mêmes, alors comment est-ce que quelque chose peut se répéter? Ça ne peut être qu'une apparence, mais ce n'est pas un fait. Et de fixer des lois rigide de la sorte, c'est non pas de vous couper des lois apparentes de la surface, parce que le mental fait beaucoup de lois et la surface, d'une façon très obligeante, a l'air de satisfaire ces lois. Mais c'est seulement une apparence. Non, mais en tout cas, ça vous coupe de la puissance créatrice de l'esprit. Ça vous coupe du pouvoir véritable de la grâce. Parce que on peut comprendre que si vous, par votre aspiration ou par votre attitude, vous introduisez un élément supérieur et un élément nouveau, ce que nous pouvons appeler maintenant un élément supramental, dans les combinaisons existantes, vous pouvez soudainement en changer la nature et que toutes ces soi-disant lois nécessaires et inéluctables deviennent des absurdités. C'est-à-dire que vous-même, avec votre conception et votre attitude, et l'acceptation que vous faites de certains soi-disant principes, vous fermez la porte à la possibilité du soi-disant miracle. Ce ne sont pas des miracles quand on sait comment ils se produisent, mais évidemment, pour la conscience extérieure, ça a l'air miraculeux. Et c'est vous-même qui, en vous disant, avec une logique qui paraît tout à fait raisonnable, en disant, eh bien, si je fais ça, nécessairement, ça va arriver. Eh bien, ou si je ne fais pas ça, nécessairement, telle autre chose va arriver. Vous, c'est comme si vous mettiez une barre, un rideau de fer entre vous et la libre action de la grâce. Comme il serait bon d'imaginer que la conscience suprême est essentiellement libre, qui préside à la manifestation universelle, puisse être fantaisiste dans son choix et faire succéder les choses non pas selon une logique accessible à la pensée humaine, mais selon un autre genre de logique, celle de l'imprévu. Alors, il n'y aurait plus de limite aux possibilités, à l'inattendu, au merveilleux. Et on pourrait espérer les choses les plus splendides, les plus réjouissantes. De cette volonté souverainement libre, jouant éternellement avec tous les éléments et produisant sans cesse un monde nouveau qui pourrait n'avoir absolument rien à faire logiquement avec le monde précédent. Vous ne croyez pas que ce serait charmant? Nous en avons assez du monde tel qu'il est. Pourquoi ne pas le laisser devenir au moins ce que nous concevons qu'il devrait être? Et tout ce que je vous en dis, c'est que pour que chacun mette aussi peu de barrières qu'il peut devant les possibilités à venir. Ça, c'est ma conclusion. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais enfin, un jour viendra, je suppose, où vous saurez ce que j'ai voulu dire. Voilà.